Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 7 avril, le jour d'après, c'est pour quand? D'après une étude de l'Institut Pasteur, il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés d'ici le 1er septembre pour espérer un retour à la vie normale. Décryptage dans ce journal avec l'épidémiologiste Philippe Amouyel. À défaut de les avoir créés, la France fabrique désormais des vaccins. Un premier site en Eure-et-Loire qui met les sérums en flacons. Et le Covid fabrique, lui, des milliardaires français. Ils sont quatre à avoir fait leur entrée dans le classement Forbes. L'école à la maison jour 2, mention, peut mieux faire. Les liaisons sont encore un peu aléatoires pour les cours en visio. Le parquet de Paris ouvre par ailleurs une enquête après les attaques d'hier contre la plateforme du CNED. Dans RTL Midi aussi, de nouvelles recherches dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin sur les indications de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série. Avec l'expert psychiatre Michel Zaguri, nous tenterons de saisir le jeu criminel de ce couple hors norme. Bayern PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions, une affiche au goût de revanche. Nous verrons quelles sont vraiment les chances des Parisiens. Et à l'heure du déjeuner, on va s'offrir un bon plat de pâtes. Lustucru veut avaler Panzani, quatre fois plus gros que lui. On verra à quelle sauce. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Moins 5,4 degrés à Chalon-sur-Saône, record battu pour un 7 avril.
Et oui, c'est vrai qu'on a encore eu très froid ce matin avec de nombreuses gelées. Alors, les températures vont légèrement remonter au nord cet après-midi. On sera encore loin de la moyenne de saison qui est de 14 au nord. De 7 à 11 degrés prévus cet après-midi, jusqu'à 16 au sud. Côté ciel, globalement, c'est du beau temps, une belle journée ensoleillée avec un ciel un petit peu plus variable au nord de la Loire. Allez, deux gouttes possibles sur les côtes de la Manche, trois flocons possibles sur l'Alsace et puis encore des averses en Corse et de la neige dès 700 mètres et toujours un peu de vent près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la Ligue des Champions. Le PSG a-t-il les moyens de prendre sa revanche face au Bayern? On attend vos appels au 32-10, voire vos pronostics. Hein. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Quand pourra-t-on ôter le masque? Y aura-t-il encore un confinement? Comment se passera l'été? Eh bien, ces trois questions, Emmanuel Macron a répondu hier à des collégiens et vous pourrez réagir à ces réponses. Vous pourrez également réagir au bras de fer entre l'État et la mairie écologiste de Strasbourg. Pas de masque, pas de distanciation sociale lors d'une messe. Ça aussi, ça fait parler depuis plus de 24 heures. Les milliardaires du Covid, milliardaires français. Et puis le PSG, rendez-vous entre 13h et 14h30.
À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer ce journal, ce pari complètement fou, idiot même, qui a failli très mal finir pour deux jeunes de 17 et 22 ans à Besançon. Ils ont voulu tester l'une des restrictions liées au Covid, les fameux 10 kilomètres, pour savoir jusqu'où ça les mènerait. Le problème, c'est qu'à un moment, ils sont arrivés au bord du Doubs, la rivière. La suite, c'est vous qui nous l'a raconté, Dimitri Ramelot.
Oui, cap plein sud pour ces deux camarades qui n'avaient manifestement pas bien préparé leur plan de route. Après quelques heures de marche en fin de matinée, la rivière en face d'eux, ils décident de la franchir à la nage. Sauf qu'avec le courant dans les eaux glaciales, ils se retrouvent en très grand danger. Un habitant de l'autre côté de la rive assiste à la scène et prévient immédiatement les policiers qui se rendent sur les lieux. Les fonctionnaires réussissent à sortir le duo de l'eau, direction le véhicule de patrouille, chauffage au maximum, couverture de survie et une sérieuse explication avec leur sauveteur à qui ils expliquent très calmement leur projet inconscient. Les deux aventuriers tirés d'affaire ont été ramenés chez leurs parents qui à coup sûr les confineront bien plus strictement.
Récit Dimitri Ramelot. On ne sait pas quand on sortira de la pandémie, mais certains ne vont pas regretter le monde d'avant. Au contraire, quatre Français entrent dans le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde. Quatre nouveaux milliardaires, dont le PDG de Moderna, qui fait une entrée remarquée, Arnaud Touche.
Oui, car il prend directement la 23e place du classement du magazine Forbes. Sa fortune est désormais estimée à plus de 4 milliards de dollars. Stéphane Bancel détient aujourd'hui 8% du capital de Moderna Therapeutics. C'est l'entreprise qui fabrique le vaccin du même nom et elle est basée aux États-Unis. À la 34e place, on retrouve Olivier Pomel, nouvel arrivant également, avec presque 2 milliards de dollars de fortune. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est en fait le PDG de Datadog. C'est une société peu connue du grand public qui s'occupe de la surveillance de serveurs ou encore de données. Sa capitalisation boursière a déjà atteint les 10 milliards de dollars. À la 35e place, on retrouve un champion des camping-cars, François Feuillet, le PDG de Trigano, et sa fortune est estimée désormais à presque 2 milliards de dollars. Et enfin, à la 36e place, dernière nouvelle entrée, celle d'Yves Loïc Martin, d'Eurofins Scientifique, un laboratoire d'analyse.
Et le top 10 du classement des milliardaires français reste inchangé. Le président du groupe LVMH, Bernard Arnault, est toujours en tête, suivi de l'héritière de L'Oréal et de François Pinault du groupe Kering. Tous ont vu leur fortune augmenter l'an dernier. En France, faute d'avoir été capable de créer un vaccin, eh bien on fait de la sous-traitance. Une première usine, Delpharm, en Eure-et-Loire, met en ce moment en flacon le sérum de Pfizer-BioNTech, Sophie Orange.
Effectivement, contrat de sous-traitante, de sous-traitance pointue, technique certes, mais que de la sous-traitance, entouré d'un très grand secret. On ne connaît pas le montant de l'accord, le nombre de doses qui va sortir des chaînes de production chaque jour. On sait juste que 60 personnes ont été embauchées pour renforcer les 300 salariés et 55 supercongélateurs achetés pour stocker les vaccins à moins 80 degrés. Delpharm est donc le premier à se mettre en ordre de marche. Suivra dans quelques semaines Recipharm pour Moderna, qui attend toujours la substance active en provenance de l'usine de Lonza en Suisse. Puis Fareva dans l'Eure et les Pyrénées-Atlantiques, qui a signé un contrat avec l'allemand Curva. Et enfin, le géant Sanofi qui va flaconner le vaccin Janssen à Marcy-l'Étoile près de Lyon. Au total, 250 millions de doses vont être produites en France en 2021, soit 10% des commandes européennes.
250 millions de doses, oui. est-ce que ça veut dire qu'en fait on aura plus de vaccins ?
Alors indirectement oui, mais ce n'est pas parce que ces doses sont produites en France qu'elles vont toutes nous revenir. Elles vont permettre aux laboratoires de sécuriser leurs engagements et donc d'honorer leurs contrats avec l'Union européenne. Et ensuite, la répartition s'effectue au prorata de la population, donc 15% pour la France. Des doses livrées plus facilement que si elles venaient de l'autre bout du monde ou de l'Europe.
Sophie Orange. L'école à la maison, saison 2, jour 2. Après le bug d'hier, la section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête pour une série d'attaques informatiques contre la plateforme du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Hier soir, le ministère avait expliqué que le système fonctionnait à nouveau, mais que ce soit au CNED ou sur les espaces numériques de travail, les fameux ENT, c'est toujours assez chaotique ce matin, Marie Guerrier.
Oui, alors c'est mieux qu'hier, mais ce sera encore mieux demain. On y travaille, promet le prestataire qui gère les ENT, en effet, ces environnements numériques de travail. Alors, dans les Hauts-de-France et puis en Île-de-France, il y a encore des ralentissements qui persistent, notamment dans le département de la Seine-et-Marne. Open Digital Education assure que les tuyaux avaient été élargis en prévision de l'affluence d'hier, c'est-à-dire de la bande passante et des serveurs opérationnels, mais qu'inévitablement, comme sur l'autoroute l'été, un jour de grand départ, quand tout le monde se connecte en même temps, ça bouchonne. Il n'y a pas de magie, c'est de l'informatique. Cette nuit, les opérateurs ont mis en place des itinéraires bis, si on poursuit la comparaison avec le trafic routier, pour ne pas solliciter toujours les mêmes serveurs, et des serveurs en stock ont aussi été activés. Les choses vont donc progressivement rentrer dans l'ordre. Les usages par les profs et les élèves vont se lisser sur la journée. Le site du CNED a été cette nuit encore la cible d'une attaque informatique, indique à l'instant le ministère de l'Éducation nationale. Et c'était parfois encore compliqué ce matin de se connecter à la plateforme nationale pour les cours en visio. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois, mais une fois connecté, lui a plus de soucis pour suivre les cours.
Merci Marie. Hier après-midi, Emmanuel Macron a tout de même réussi à s'entretenir avec des élèves de 3e en visioconférence et il a donné, le président, des perspectives optimistes pour l'avenir. Une sorte de calendrier de déconfinement, Vincent Derosier.
Oui, et ces perspectives ressemblent comme deux gouttes d'eau à un nouveau pari présidentiel. Le confinement, les mesures barrières et l'accélération de la vaccination permettront, selon les mots d'Emmanuel Macron, de prendre le virus en tenaille et donc de reprendre le chemin de l'école comme prévu, même si la situation sanitaire est encore mauvaise. C'est en tout cas ce qu'il a promis hier aux collégiens.
La semaine du 26 avril, la rentrée se fera physiquement pour les maternelles et les primaires. Vous, vous referez une semaine un peu comme ça. Et après, à partir de la première semaine de mai, vous reprendrez les cours physiquement. Et donc, je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir un nouveau de confinement.
Plus de confinement, un brevet des collèges maintenu, le port du masque encore obligatoire cet été, mais une rentrée scolaire un peu plus normale au mois de septembre. Le président se veut optimiste. Il s'adresse aussi aux parents qui n'en peuvent plus confier un cadre de la majorité. Pour le reste, c'est beaucoup plus flou. Il promet une réouverture progressive des commerces au mois de mai, sans donner beaucoup plus de détails. Et cette incertitude crispe un peu plus les élus de France. Une soixantaine de maires de grandes villes réclament ce matin dans une lettre ouverte des perspectives claires pour le monde de la culture.
Merci beaucoup. L'Institut Pasteur, la Haute Autorité de Santé Publique et Santé Publique France viennent de publier une étude où ils expliquent qu'il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés début septembre pour espérer un retour à la vie normale. On fait une petite pause et on fait un petit décryptage avec notre invité dans un instant, le professeur Philippe Amouyel, qui est épidémiologiste.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
À quand la vie d'après ? Revenons donc sur cette étude de l'Institut Pasteur de la Haute Autorité de Santé, de Santé publique France. D'après eux, il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés début septembre pour espérer un retour à une vie normale. Nous sommes donc avec le professeur Philippe Amouyal, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes aussi de cet avis ?
Oui, tout à fait. En fait, les chiffres, ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est-à-dire le nombre de personnes qui doivent avoir été en contact soit avec le virus, soit avec le vaccin, étant donné la majorité maintenant des infections sont dues au variant britannique, qui est beaucoup plus transmissible, nécessite d'avoir une plus grande partie de la population vaccinée pour atteindre cette fameuse immunité qui nous permette de sortir enfin de cette affaire.
Donc, l'Institut Pasteur souligne que 90% des adultes vaccinés, c'est un taux bien supérieur à la part de ceux qui sont réellement prêts à se faire vacciner. Est-ce que ça, c'est une source d'inquiétude pour vous?
Et oui, et d'ailleurs, les pays qui vaccinent le plus actuellement, comme Israël, doivent faire face à cette question également. C'est-à-dire que ce variant britannique étant plus transmissible, les chiffres d'à peu près 60% de la population vaccinée ou exposée commencent à devenir difficiles à tenir si on veut vraiment se débarrasser complètement des mesures barrières. Donc il faut penser à vacciner plus, mais là on est limité par la volonté quand les gens à se faire vacciner, d'où l'idée éventuellement de passer à d'autres populations.
D'autres populations, alors là on est au cœur du sujet, d'autres populations, c'est-à-dire les enfants?
Alors en fait, la plupart des essais ont été faits jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc ça veut dire qu'on vaccine que les populations adultes. Mais on se rend compte maintenant que ce vaccin qui protège des formes graves, maintenant on montre qu'il protège aussi de la transmission. Donc si vous prenez un enfant ou un adolescent qui a un risque faible de faire une forme grave mais qui transmet le virus, ça devient intéressant à ce moment-là de vacciner des adolescents par exemple de 12 à 15 ans et Pfizer a déclenché justement un essai qui montre qu'en effet ça a l'air de marcher. Donc on élargirait notre base de population pour atteindre cette immunité collective qui nous permettrait de nous libérer des mesures barrières.
Mais vous le dites à l'instant, on est seulement sur des essais, ça veut dire que c'est pas du tout au point.
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est au point dans la mesure où, quand on a commencé à vacciner, on avait également la même nature d'essai. Ce qui se passe, c'est que les laboratoires ont arrêté l'âge de leurs essais, de développement de leurs essais, qu'à partir jusqu'à 18 ans. Maintenant, la question qui se pose, c'est que pour pouvoir les utiliser, il faut bien vérifier qu'ils n'ont pas d'effet indésirable particulier chez les adolescents ou chez les jeunes enfants, parce que les essais sont en cours sur les jeunes enfants, et qu'ils protègent également. Donc, c'est ce qu'a fait Pfizer chez les 12 à 15 ans, avec 2260 jeunes de 12 à 15 ans qui ont été vaccinés aux États-Unis, qui montrent qu'il y a 100% d'efficacité du vaccin dans cette population et donc une diminution du risque de transmission, ce qui nous permettrait d'atteindre plus rapidement les chiffres d'immunité collective.
Et vacciner les plus petits, c'est envisageable, les moins de 12 ans ?
Alors c'est une hypothèse qui est en cours puisque là encore les laboratoires qui produisent ces vaccins ont des études dont on n'a pas encore les résultats bien sûr chez les 5 à 11 et jusqu'à 6 mois. Donc ça c'est des essais qui sont actuellement en cours dont on n'a pas les résultats.
Mais pour vacciner 90% des adultes, il va falloir aussi rassurer, hein. Je pense que tout ce qui se passe avec AstraZeneca n'est pas fait pour aider la vaccination, professeur Amouyal.
Et oui, vous avez tout à fait raison là-dessus. Donc il y a trois piliers dans la vaccination réussie. Il y a d'abord avoir des doses. Le deuxième, c'est avoir des hommes et des femmes qui sont prêts à vacciner la population. Et enfin, le plus important, c'est de convaincre les Français de bien vouloir se faire vacciner pour pouvoir sortir de cette crise. Alors là, on assiste à un engouement extrêmement important, et c'est une excellente chose pour la vaccination. Mais à un moment, quand on aura vacciné suffisamment, parce qu'on aura des vaccins de drone, parce qu'on aura des doses, on va probablement arriver à une espèce de plafond de verre qu'il va falloir, d'une mesure ou d'une autre, soit par en étant extrêmement convaincant, soit en élargissant les populations, faire éclater.
Une dernière question, professeur. À quel moment et dans quelles conditions pourra-t-on relâcher les gestes barrières ?
Alors, les relâcher ou les supprimer complètement ? Les supprimer, on sera bien sûr qu'on aura atteint cette immunité collective, qu'on saura si sa permanence, sa durée est compatible avec au moins un ou deux ans pour pouvoir envisager une revaccination, mais il faut que le virus ne circule plus. Si par exemple, on vaccinait 100% des personnes de plus de 65 ans, mais seulement, 60% ou 50% des moins de 65 ans, ce ne serait pas suffisant, même si au total, ça fait une couverture de 60%. Oui. Donc il faut réellement pouvoir avoir la base la plus large, en particulier là où le virus circule. Et maintenant, on sait que le virus circule chez les enfants, même s'il n'entraîne pas des formes graves, d'où l'intérêt de les vacciner aussi.
la vaccination des enfants, c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup insisté. Merci professeur Amouyel, merci, à bientôt.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Il est 12h45. Revenons sur la question du jour sur RTL.fr à propos de la Ligue des Champions. Le PSG a-t-il les moyens de prendre sa revanche face au Bayern? Le PSG est perdu en finale face aux Allemands il y a quelques mois. Il se retrouve en quart de finale aller. Et c'est ce qui vous inspire aujourd'hui, Pascal Pro. Enfin, le PSG, lui, ne vous inspire pas vraiment.
Ben, le PSG, ce n'est sinon un échec, du moins c'est une déception sportive. Le PSG est deuxième aujourd'hui du championnat avec 600 millions d'euros de budget derrière Lille qui a sans doute 5 ou 6 fois moins d'argent. Déception d'image que symbolise Neymar. Quand il n'est pas blessé, il est expulsé. On a l'impression qu'il est un touriste à Paris. Déception du management. Pochettino a remplacé Tourelle en cours de saison et ça ne change pas grand-chose. Et j'ai peur que cette mosaïque de joueurs qu'est le PSG explose en vol face au Bayern, qui est un assemblage cohérent, qui joue en équipe, qui se bat pour une couleur, un maillot, un club, en un mot, tout ce que le PSG n'a pas. Et j'ai peur qu'à Paris, il n'y ait que des destins individuels. Vous l'avez compris, ce PSG ne me fait pas rêver.
Je crois que c'est clair. Parlons-en quand même avec notre envoyé spécial à Munich, Nicolas Georgerot. Est-ce que vous êtes aussi sévère que Pascal?
Non, pas aussi sévère, parce que c'est une vision du Paris Saint-Germain assez caricaturale qui revient sans cesse. Et là où l'on voit des points faibles, on peut aussi y voir des points forts. Une équipe composée d'individualités peut-être, mais une équipe capable de marquer également à n'importe quel moment. Neymar, Mbappé, les autres, quoi qu'on en dise, ça peut faire la différence à tout instant. Un souvenir comme ça qui me revient, Dortmund, le 8e de finale aller de Ligue des Champions l'an passé, le PSG s'incline de 2-1, le PSG n'est pas bon collectivement, mais s'il n'y a pas une fulgurance de Mbappé et de Neymar pour inscrire ce but qui a été si important en vue du retour, eh bien ça n'aurait pas marché à Barcelone au mois de février. Si vous n'avez pas le talent de Mbappé, eh bien vous n'avez pas ce score de 4-1 à l'arrivée. Alors que le PSG est un double visage et est moins de constance que les grands clubs européens au quotidien, c'est un fait et on peut le déplorer, mais c'est ce qui rend aussi cette équipe attrayante et imprévisible. Et pour moi, comparer un quart de finale aller de Ligue des Champions avec un match de Ligue 1 qui a eu lieu il y a 4 jours, fût-ce contre Lille, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le Paris Saint-Germain sera radicalement différent ce soir.
Le PSG est deuxième du championnat avec 600 millions d'euros de budget, quand Lille est premier avec 100 millions quand même. Si vous trouvez que c'est pas étonnant.
Vous avez entièrement le droit de le dire.
Non, mais si vous trouvez que c'est pas étonnant, Nicolas.
Et il a le droit de ne pas être d'accord avec vous, Nicolas.
Mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs du PSG, ils prennent les matchs de championnat à la légère?
Non, mais c'est une. Quand on connaît la quête, quand on connaît la quête des propriétaires du Qatar, évidemment pour la Ligue des Champions, aujourd'hui, quand on revient à ce double visage, c'est certain qu'au quotidien, le PSG ne met pas peut-être la même implication et le même investissement. Mais aujourd'hui, c'est un match qui sera différent et on verra quelque chose vraiment différent de la part du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Allianz Arena.
Fulgurance ou inconstance. Rendez-vous dans RTL Foot spécial Ligue des Champions ce soir entre 20h45 et 23h. Puis vous allez en discuter avec les auditeurs au 32
J'entends 10 bien. Et j'espère minutes. Me tromper, hein, et pour le Paris et pour le foot français.
Dans l'actualité, il y a aussi de nouvelles séries de fouilles dans les Ardennes, à 5 km de Ville-sur-Lume, dans une zone forestière, pour tenter de retrouver enfin le corps de la petite Estelle Mouzin, 18 ans après sa disparition. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, a donné des indications aux enquêteurs. Thomas Proutot, c'est aussi l'aboutissement de 3 ans d'investigation pour la juge d'instruction, Sabine Kéris.
Oui, c'est un nouveau succès pour la doyenne des juges d'instruction parisiens qui a repris le dossier en 2018, alors que l'enquête, il faut bien le dire, était au point mort. La magistrate a alors tout relu. Elle s'est surtout imprégnée des personnalités perverses et manipulatrices des deux assassins qui avaient évoqué le crime mais sans jamais l'avouer. Sabine Kéris a entendu et réentendu semaine après semaine le couple infernal jusqu'à obtenir de premières révélations spontanées en 2019 de Monique Olivier sur la participation de Michel Fourniret. Son ex-femme reconnaîtra ensuite avoir inventé l'alibi de Fourniret, ce qui entraînera les premiers aveux du tueur en série. La juge Kéris va alors lancer des investigations tous azimuts, celles que la famille reproche à la justice de ne pas avoir initiées dès les années 2000. La semaine dernière, Monique Olivier a cette fois-ci totalement baissé la garde, semble-t-il, et reconnu qu'elle avait accompagné Michel Fourniret en camionnette lorsqu'il est parti enterrer la dépouille d'Estelle. C'est dans cette zone qu'elle a emmené les gendarmes et la juge la semaine dernière. Et c'est désormais là que la magistrate espère l'impossible, retrouver le corps de la fillette 18 ans après.
Et c'est la quatrième fois qu'il y a des fouilles dans ce secteur, dans les Ardennes. On sait à quel point le couple Michel Fourniret, Monique Olivier est manipulateur. Alors pour essayer de comprendre, nous sommes avec l'expert psychiatre Daniel Zaguri. Bonjour.
Bonjour Christelle Robillard.
Vous avez rencontré Michel Fourniret à deux reprises. Est-ce que vous pensez que cette fois, il y a de bonnes chances de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin?
Je ne pense pas qu'il faille poser la question en ces termes, en tout cas pour ce qui me concerne en tant que psychiatre. Si vous voulez. Ce qui me frappe, moi, c'est cette espèce de feuilleton malsain entre Fourniret et la France. On se demande sans arrêt si ça va rebondir. Et puis, il y a eu deux affaires. Il y a eu l'affaire Fourniret, hein, cette espèce de feuilleton sordide. Et puis, la petite Estelle Mouzin, la France s'est habituée à son visage. Et puis, les deux affaires se croisent. Et là, c'est un petit peu l'horreur. Jusqu'où ça va s'arrêter ?
Vous parlez d'un feuilleton malsain entre Fourniret et la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un feuilleton malsain entre Fourniret et Monique Olivier ? Et c'est ça le fond du problème ?
Alors, c'est plus qu'un feuilleton, c'est une histoire d'amour criminel, c'est un lien très fort. Là aussi, si vous voulez, les Français, dans un premier temps, n'ont pas voulu accepter l'idée qu'une femme puisse avoir de tels comportements pervers en association avec son mari. Il y a quelque chose presque qui nous choque encore plus quand il s'agit d'une femme et à l'époque d'une future maman qui utilise de tels subterfuges pervers. Donc, bien entendu, que c'est une affaire à deux.
Mais est-ce que Monique Olivier peut mentir, elle aussi, à son tour, et jouer avec les nerfs des enquêteurs comme lui sait si bien le faire, de mensonges en demi-révélation ?
Est-ce qu'elle peut mentir ? Je dirais oui. Oui, c'est possible, mais qu'on lui attribue les mêmes subterfuges qu'à Michel Fourniret, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Mais pourtant, elle avait pris sa défense, hein, alors qu'il avait été arrêté 6 mois seulement après la disparition d'Estelle Mouzin. Est-ce que cette fois, vous avez le sentiment qu'elle l'a lâché ?
Ah, mais il y a longtemps qu'elle l'a lâché, hein. Il y a longtemps qu'elle joue, si je puis dire, pour sauver ses propres meubles. Bien sûr qu'elle l'a lâché. Mais bien entendu, ce pacte qui les a liés, qui a duré si longtemps, et dont elle a voulu faire croire qu'elle était une pauvre femme sous emprise, ce pacte est fini depuis longtemps.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le mode de relation de ce couple ? Comment il fonctionne ?
Si vous voulez. Monique Olivier, quand elle a rencontré Michel Fourniret, elle n'était pas prédestinée au crime. Hein. Ce qu'elle cherchait, c'était une sorte de vengeur. Fourniret disait un Lino Ventura, vous voyez, quelqu'un qui pourrait casser la gueule ou voire tuer son ancien mari, enfin, quelqu'un comme ça. Mais pas nécessairement un tueur. Et puis, elle a trouvé dans la relation quelque chose qui venait apporter des solutions à sa propre vie pour... Désormais, elle ne serait plus la femme bafouée, la femme dont le père ne s'intéressait pas, la mère non plus, le premier mari qui a été victime de tout. Et pour une fois, ce ne serait plus elle la victime, mais ce serait les autres, et grâce à Michel Fourniret. Mais au départ, elle n'était pas prédestinée à devenir criminelle.
Est-ce que vous pensez que ces années de prison ont changé leur psychologie ou pas du tout ?
Alors pour ce qui concerne Michel Fourniret, vous savez, Michel Fourniret, c'est un bloc de granit. Hein. C'est quelqu'un qui s'est construit sur des décennies et des décennies de perversité assez inouïe. Et donc, je pense que ce qu'il a entamé, probablement... C'est le déclin cognitif, hein, puisqu'apparemment...
Oui, il souffre de troubles neurologiques, visiblement.
Voilà, c'est ça qu'il a entamé. Monique Olivier, non, c'est probablement plus compliqué.
On peut vraiment avoir un espoir que cette fois, ça aboutisse sur quelque chose ?
Ça, c'est au juge d'instruction de le dire, mais il semble quand même que là, on soit sur des choses qui tiennent la route. Donc, je ne peux pas en dire plus, moi, c'est pas ma spécialité.
Merci Daniel Zaguri d'avoir été l'invité d'RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
On est à 5 minutes de 13h. Passons à table. Lustucru veut s'offrir un plat de pâtes. Oui, mais des panzani. Qui l'eût cru ? La marque française a beaucoup d'appétit sur un marché dopé par la pandémie, quitte à avaler un concurrent 4 fois plus gros que lui, Armelle Lévy.
Oui, et ne vous y trompez pas, le plus gourmand n'est pas celui qu'on croit.
Commençons par les spaghettis.
Don Patillo, la gourmandise,
on pensait quelques pâtes.
Des pâtes, oui, mais des panzani.
Oui. Oui.
Des pâtes.
Non, c'est Lustucru le Petit qui représente 4% du marché des pâtes dans l'Hexagone avec ses 300 salariés et qui pèse 150 millions d'euros, qui veut racheter le plus gros panzani qui appartient au numéro 1 espagnol de l'agroalimentaire, le groupe Ebro, et qui représente à lui seul 28% du marché français. 470 millions d'euros et 800 salariés. Lustucru comme Panzani sont deux groupes qui se connaissent bien. Ils ont des usines en France depuis leur création. Depuis 110 ans pour Lustucru et 70 ans pour Panzani, Germaine et Don Patillo finalement ne viennent pas de mondes si différents.
Germaine,
Germaine.
Très bien.
Alors, qui c'est qui me ramène ?
Ramener ?
Non.
Bon, et quel est l'intérêt économique ?
Eh bien, le mariage de la marque rouge et de la marque bleue peut donner naissance à un champion tricolore de la coquillette et des pâtes sèches. Avec les confinements, les Français n'ont jamais acheté autant de pâtes, près de 6 000 tonnes l'an dernier. Mais la grande distribution tire les prix vers le bas, tandis que le prix du blé dur augmente. Donc ce mariage permettrait de peser davantage dans les négociations et de réaliser des synergies et des économies d'échelle. Et Bercy n'y serait pas opposé, puisque les pâtes restent la valeur refuge alimentaire en période de crise.
Armelle Lévy, moins 4 voire moins 5 degrés cette nuit dans le Chablis. Les viticulteurs sont sur le qui-vive. Valentin Boisset, vous êtes au domaine de la Meulière, domaine d'une trentaine d'hectares où l'on a chauffé la vigne toute la nuit. Une nuit blanche de sommeil et blanche de gel avant de constater les dégâts.
Oui, les bougies sont désormais éteintes dans les parcelles autour de nous. Cela fait deux nuits que Vincent Laroche, viticulteur de Chablis, n'a tout simplement pas dormi.
Une heure et demie en 48 heures de sommeil, c'est un peu pas beaucoup et il faut se remettre d'aplomb pour la nuit prochaine.
Avant une sieste, au volant de son 4x4, il veut faire un premier bilan de cette gelée dite noire. Cela veut dire que l'ensemble des coteaux gèlent comme en plein hiver. Problème, les bourgeons sont parfois déjà formés début avril.
Les trois plus poussés, hein, les trois bouts de baguettes, ceux-là sont bruns, marron, gris, ça va sécher et puis ça va tomber.
En précisant que là on est tout en haut du coteau.
On est tout en haut du coteau, mais malheureusement on a les mêmes en bas du coteau. Aujourd'hui on compte les morts, et cet après-midi on les verra mieux, mais ce matin on les voit déjà, donc c'est plutôt mauvais signe.
Pour 2021, il semble donc d'ores et déjà difficile pour cet exploitant de produire ses 180 000 bouteilles annuelles.
La viticulture à Chablis, c'est 5 000 emplois directs et indirects. On est tout début avril et malheureusement on s'attend à une année assez catastrophique.
Ce soir, des températures négatives sont encore attendues ici, alors de nouvelles bougies sont installées pour réchauffer à nouveau les parcelles une fois la nuit tombée.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Clermont-Ferrand retrouver une coiffeuse à domicile. Elle a été émue par la précarité de nombreux étudiants. Alors une fois par semaine, elle se rend dans leur chambre et leur coupe les cheveux pour 1 euro. Ça méritait bien un coup de cœur, Guillaume Frixon.
Oui, Armelle a 24 ans. Elle est étudiante en langue étrangère et elle montre sur son téléphone le style de coiffure dont elle rêve depuis des mois.
Une petite frange rideau comme ça, là, comme sur les photos.
D'accord.
Voilà.
Car cela fait maintenant un an qu'elle n'a pas pu s'offrir les services d'un coiffeur.
Il y a quand même pas mal de coiffeurs qui font des moins 20, moins 25%, mais ça reste quand même cher parce que souvent c'est 50 euros la coupe femme. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ça, ben, j'ai foncé quoi du coup.
Une demi-journée par semaine, Claudine Figon vient donc manier le ciseau. Pour les étudiants, le prix est tout simplement symbolique, 1 euro seulement.
Voilà, je prends une demi-heure pour chaque, donc c'est vrai que je peux pas non plus faire des coiffages extraordinaires ou des couleurs, des choses comme ça, je ne me consacre qu'aux coupes. Je sais que des fois, ils se coupent les cheveux entre eux, ils s'épointent les cheveux comme ils peuvent, c'est important aussi de prendre soin de soi.
Avec ses 20 ans d'expérience, la coiffeuse a prévu de poursuivre son action solidaire tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée.
Reportage Guillaume Frixon. Pascal Pro, c'est dans quelques secondes que vous allez dialoguer avec les auditeurs. Rapidement.
Quand pourra-t-on ôter le masque ? Y aura-t-il encore un confinement ? Et comment se passera l'été ? Les réponses avec Emmanuel Macron.
Allez, dans un instant, le rappel des titres.
RTL Midi. RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et François est avec nous sur la mosquée de Strasbourg et la subvention qui avait été votée par la mairie de Strasbourg. Ça vous choque ? Bonjour François.
Bonjour Pascal, ça interroge nos principes républicains.
Eh bien vous allez pouvoir développer cette idée après le rappel des titres et la météo qui arrivera dans une seconde. Parce qu'il ne faut pas zapper la météo, d'autant qu'il fait très froid. Le rappel des titres avec Christelle.
Mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Encore des bugs ce matin dans les cours à distance de l'éducation nationale, notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Par ailleurs, le parquet de Paris a ouvert une enquête après l'attaque informatique contre la plateforme du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Une nouvelle attaque a d'ailleurs eu lieu cette nuit. Depuis ce matin, la France fabrique des vaccins, ou plutôt met en flacon le sérum de Pfizer-BioNTech. C'est l'usine Delpharm implantée en Eure-et-Loire. À la fin de l'année, la France devrait produire 250 millions de doses, tous vaccins confondus. Conséquence indirecte du Covid, 4 Français font leur entrée dans le club mondial des milliardaires du magazine Forbes. Parmi eux, Stéphane Bancel, le PDG du fabricant de vaccins Moderna. Dans l'affaire Fourniret, les fouilles ont repris ce matin dans les Ardennes, toujours à la recherche du corps d'Estelle Mouzin, disparue il y a 18 ans. La météo, enfin, Peggy Broche, mieux vaut tard que jamais. Ça caille, mais au moins, il fait très beau.
Et oui, exactement, c'est très ensoleillé, Christelle, au sud de la Loire. Alors, sauf en Corse, où il y a encore quelques averses et des nuages. Au nord de la Loire, c'est un ciel plus variable entre nuages et éclaircies avec un peu de vent. Quelques gouttes possibles sur les côtes de la Manche, quelques rares flocons encore sur l'Alsace où le ciel est plus nuageux, c'est vrai. Et puis côté température, elles ne sont toujours pas de saison. 7 au Havre, 8 à Strasbourg, 10 à Paris et Lyon, 11 à Brest, 13 à Bordeaux et Toulouse, 14 à Marseille et 16 à Perpignan.
Merci Peggy.